VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à toutes, le monde aujourd'hui, édition du mardi 23 mai 2017, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En Grande-Bretagne, le bilan s'est alourdi dans l'attaque terroriste à Manchester. Au moins 22 personnes ont été tuées et 59 autres blessées.
En Côte d'Ivoire, des ex-rebelles démobilisés ont bloqué hier des accès à Boaké et à Korogo.
Au Niger, l'acteur de la société civile Ali Idrissa n'est toujours pas fixé sur son sort face à la justice de son pays.
En Gambie, la justice a gelé hier les biens de l'ex-président Yahya Jammeh, aujourd'hui réfugié en Guinée équatoriale.
L'Organisation mondiale de la santé doit élire aujourd'hui à huis clos son prochain chef. Parmi les trois candidats, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Le président Donald Trump aujourd'hui à Bethléem pour des entretiens sur la paix israélo-palestinienne avec Mahmoud Abbas.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Tout d'abord Manchester, où le bilan de l'attentat a été revu à la hausse. Les autorités annoncent au moins 22 morts et 59 blessés. Lundi soir, aux environs de 22h temps universel, des explosions ont provoqué la panique dans et en dehors de Manchester Arena, où venait de se produire la chanteuse américaine Ariana Grande. Des précisions avec Jean-Roger Bion.
La police britannique signale des enfants parmi les 22 morts. D'après Scotland Yard, l'auteur de l'attentat est mort en faisant exploser son engin. Une foule de témoins a affirmé avoir entendu une puissante explosion qui a provoqué des scènes de panique dans la salle de concert, mais aussi en dehors où des parents attendaient la sortie de leurs enfants. Côté réaction, le président français Emmanuel Macron a fait part mardi de son effroi et de sa consternation après l'attentat et a annoncé qu'il s'entretiendra avec la première ministre britannique Theresa May. La classe politique canadienne a exprimé sa consternation lundi soir. Le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodall s'est déclaré profondément inquiet après les attaques brutales au Royaume-Uni en faisant part de sa solidarité avec les Britanniques. La première ministre conservatrice Theresa May et son rival travailliste Jeremy Corbyn ont décidé de suspendre leur campagne en vue des élections législatives du 8 juin.
Ailleurs dans le monde, en Côte d'Ivoire, des ex-rebelles démobilisés réclamant des primes similaires à celles des mutins qui ont ébranlé le pays la semaine dernière ont bloqué hier des accès à Boaké, deuxième ville du pays, et à Korogo. Selon l'AFP, les démobilisés ont chassé à Boaké la police et la gendarmerie du corridor sud d'entrée de la ville et empêché la circulation sur cet axe, le principal du pays. À Korogo, une cinquantaine de démobilisés ont pris le contrôle de l'entrée nord de la ville.
Au Niger, l'acteur de la société civile Ali Idrissa, interpellé brièvement le week-end dernier, a été de nouveau convoqué hier matin. Il était sur le point d'être déféré devant le procureur quand la police judiciaire s'est ravisée pour le libérer et lui notifier que son dossier reste ouvert. Pour rappel, Ali Idrissa est accusé d'incitation à la révolte après une critique faite au président Issoufou, notamment, et aux autorités qui ont interdit une manifestation publique des organisations de la société civile. Le point avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Comme convenu, Ali Idrissa s'est rendu tôt lundi matin dans les locaux de la police judiciaire pour s'entendre dire qu'il sera présenté devant le procureur de la République au niveau du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Les heures passèrent et l'interrogatoire fut repris deux fois de suite dans la matinée. Vers 14h, l'officier lui indique finalement qu'il peut rentrer chez lui, mais que son dossier reste ouvert, ce qui ne signifie pas de répit pour l'activiste.
Je suis libre et je continuerai à vaquer à mes occupations. Mais je suis plus que jamais déterminé à continuer la lutte pour la restauration de la démocratie dans notre pays, pour que les valeurs républicaines soient respectées dans ce pays, pour que les libertés d'expression s'exercent librement dans ce pays. Nous nous sommes plus que jamais mobilisés à combattre la corruption et les corrompus dans ce pays.
Ali Idrissa est au devant d'un mouvement social qui se dresse contre la gestion actuelle des autorités en place, gestion caractérisée selon ce mouvement par une corruption de grande échelle et le détournement des deniers publics. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Gambie, la justice a gelé hier les biens de l'ex-président Yahya Jammeh. Il est soupçonné d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars avant son départ en exil. Le point avec Eric Manirakiza.
Selon le ministre de la Justice, l'ex-président Yahya Jammeh a personnellement ou indirectement procédé au retrait illégal d'au moins 50 millions de dollars de la Banque centrale. Dans une conférence de presse à Banjul, Aboubakar Tambadou a annoncé que la justice a ordonné le gel ou la saisie sur les biens connus du président Jammeh dans le pays et les sociétés qui lui sont associées. Cette décision vise à empêcher une liquidation, une disparition des biens de l'ex-président et concerne 88 comptes bancaires au nom de M. Jammeh ou ses associés et 14 sociétés. Yahya Jammeh contrôlait des activités allant de la boulangerie aux fermes agricoles et était régulièrement accusé de mettre la main sur des secteurs commerciaux florissants. C'est la première fois que le nouveau gouvernement évalue les avoirs retirés des caisses de l'État par M. Jammeh avant son départ en exil en janvier pour la Guinée équatoriale. Son successeur Adama Barrow l'avait accusé d'être parti en vidant les caisses du pays.
La radio-télévision allemande Deutsche Welle a annoncé hier la libération de son correspondant au Burundi, Antedi Test Niragira, arrêté 5 jours plus tôt en République démocratique du Congo, où il faisait un reportage sur un camp de réfugiés burundais. Accusé par les autorités congolaises d'espionnage, sans plus de précision, il avait ensuite été transféré dans une prison de la ville voisine d'Uvira. Le porte-parole de la Deutsche Welle s'est néanmoins montré inquiet que les autorités burundaises ne l'aient pas laissé rentrer voir sa famille.
En Tunisie, une manifestation dans le sud du pays tourne au drame. Un jeune manifestant est mort hier après avoir été écrasé par un véhicule de la gendarmerie, faisant craindre une escalade dans cette région agitée depuis plusieurs semaines par des protestations sociales. Abdourahmane Dia.
Au cours de la manifestation, une cinquantaine de personnes ont également été hospitalisées pour asphyxie au gaz lacrymogène ou blessées. La tension est montée d'un cran ce week-end à El Kamour, à une centaine de kilomètres de Tataouine, où campent depuis près d'un mois des habitants réclamant une meilleure répartition des richesses et des emplois dans les sociétés pétrolières. Après le décès du jeune Ael Kamour, la manifestation devant le gouvernorat à Tataouine a fini par des heurts. Le gouvernement affirme que le siège de la garde nationale à Tataouine a été incendié, des véhicules des forces de l'ordre brûlés et la fourrière dévalisée. La situation a poussé le président belge Kaïd Essebsi à demander aux militaires de protéger les sites de production pétrolière. La Tunisie avait connu début 2016 une importante contestation après le décès d'un jeune manifestant pour réclamer du travail à Kasserine dans l'ouest du pays. En 2011, le printemps arabe faisait suite à la mort par immolation d'un jeune vendeur à Sidi Bouzid.
Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a déclaré hier un cessez-le-feu unilatéral et lancé un dialogue national destiné à mettre fin à la guerre civile. Ce processus n'inclut pas son vieux rival Riek Machar. Le point avec Morgane Guiriec.
Je déclare une nouvelle fois un cessez-le-feu unilatéral, effectif à partir d'aujourd'hui, pour que nous puissions créer l'environnement nécessaire à un dialogue inclusif. C'est ce qu'a déclaré Salva Kiir en présence du président ougandais Yoweri Museveni. Ce n'est pas la première fois que M. Kiir s'engage à déposer les armes depuis le début de la guerre civile en 2013, sans que cela se concrétise sur le terrain. Il a aussi averti que l'armée gouvernementale gardait le droit de se défendre. Le président sud-soudanais avait annoncé en décembre ce dialogue national. L'opposition avait salué cet appel, mais refusé d'y prendre part. Le président Kiir a renouvelé sa promesse d'ouvrir à tous ce dialogue, à l'exception du leader de l'opposition, l'ex-vice-président Riek Machar, et de garantir la sécurité de tous les participants. Si Riek Machar venait, il causerait une nouvelle guerre à Djouba. Mais s'il a une délégation de gens en qui il a confiance, qu'il les nomme pour qu'ils viennent à Djouba. Nous garantissons leur sécurité, a-t-il déclaré.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Organisation mondiale de la santé va se doter d'une nouvelle direction. L'institution onusienne doit élire un nouveau directeur général pour un mandat de 5 ans. Claire Morin-Gibourg.
Pour la première fois, les États membres de l'OMS vont choisir entre 3 personnes, toutes docteurs en médecine, celui ou celle qui remplacera Madame Margaret Chan. Auparavant, un seul candidat était choisi par le comité exécutif. Et pour éviter que certains pays exercent des pressions, le vote se fera à bulletin secret pour la première fois également. Trois candidats sont arrivés en phase finale, le Britannique David Dabaro, l'Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus et la Pakistanaise Sania Nishtar. Le docteur Nabarro, connu pour sa lutte contre l'épidémie Ebola, et l'ex-ministre éthiopien des Affaires étrangères, le docteur Tedros, soutenu par l'Union africaine, font figure de favoris. Chercheur renommé sur le paludisme, cet ancien ministre de la Santé souhaiterait devenir le premier Africain à la tête de l'OMS. Margaret Chan, la directrice sortante de l'OMS, a défendu son bilan après 11 années à la tête de l'agence onusienne. Elle a estimé que le monde était mieux préparé aux épidémies, mais faisait face à un avenir plus sombre.
Le président Donald Trump effectue aujourd'hui le court déplacement d'Israël en Cisjordanie occupée pour rencontrer à Bethléem le président palestinien Mahmoud Abbas, soucieux d'exposer à nouveau le rêve palestinien d'un État indépendant, un président américain qui n'a toujours pas précisé ses plans. Il s'est rendu hier au mur des Lamentations à Jérusalem et a eu des entretiens avec les leaders israéliens, dont le premier ministre Benjamin Netanyahou.
En Israël comme en Cisjordanie, celui qui ambitionne de présider à l'accord diplomatique ultime pourra se convaincre si oui ou non faire la paix n'est peut-être pas aussi difficile que les gens le croient depuis des années, comme il l'avait dit en mai devant M. Abbas à la Maison Blanche. Comme il l'avait fait au début de sa tournée à Riyad en Arabie Saoudite, M. Trump s'en est une nouvelle fois pris à l'Iran hier, estimant que Téhéran devait cesser le financement, l'entraînement et l'équipement meurtrier de terroristes et de milices. L'Iran ne doit jamais posséder une arme nucléaire, jamais a-t-il martelé. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Jacques Aristide.
En visite à Abidjan, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a annoncé hier de nouveaux projets pour aider la Côte d'Ivoire à atteindre l'émergence en 2020. Pour le ministre ivoirien de l'intégration africaine Ali Koulibaly, qui assume l'intérim aux affaires étrangères, tous les projets menés conjointement avec Pékin ont eu de bons rendements économiques et sociaux. Le président chinois Xi Jinping a déjà annoncé une dizaine de projets de coopération avec l'Afrique. Le Ghana demande au Fonds monétaire international d'étendre son programme d'aide jusqu'en décembre 2018 afin de continuer à stabiliser son économie. Accra devrait initialement recevoir du FMI 918 millions de dollars sur 3 ans, mais une extension lui permettrait de rassurer les opérateurs économiques et bénéficier de fonds supplémentaires. Le groupe sud-africain de la télévision payante Naspers est en pourparlers avec le géant sud-africain de la téléphonie mobile MTN pour fournir du contenu télévisuel aux 220 millions d'abonnés de MTN. Un éventuel accord permettrait à Naspers de sortir sa branche de télé payante du rouge en raison de la hausse des coûts et de la volatilité des devises.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Afrique a le sourire à la Coupe du Monde de football des moins de 20 ans.
Eh oui, le Sénégal a battu 2-0 l'Arabie Saoudite hier dans le groupe F en Corée du Sud. Ibrahim Agnan ouvre le score dès la 15e minute, imité aussitôt à la 17e minute par Diagne. Les Sénégalais prennent la tête du groupe après le match nul 3 partout entre l'Équateur et les États-Unis. À suivre tout à l'heure, après la sévère défaite 3-0 lors de son premier match du tournoi, le Sili National de Guinée essaiera de se reprendre face à l'Angleterre.
Aucun match aujourd'hui au Gabon à la CAN des moins de 17 ans.
Et oui, on connaît depuis ce week-end les affiches des demi-finales. On aura Ghana-Niger et Mali-Guinée demain. Précisons que les 4 demi-finalistes sont tous qualifiés pour le mondial de la catégorie qui aura lieu en octobre prochain en Inde. Enfin, la NBA, la finale de la conférence Ouest, Golden State contre San Antonio. Alors Idrissa, les Warriors ont-ils atteint le Graal cette nuit?
Eh bien, les Golden State Warriors, les champions NBA 2015, se sont qualifiés pour leur 3e finale consécutive après leur victoire lundi contre les San Antonio Spurs, 129-115. Les Warriors, menés par Stephen Curry, auteur de 36 points, et Kevin Durant, qui a totalisé 29, ont remporté la finale de la conférence Ouest 4-0 contre les Spurs. Golden State préserve ainsi son invincibilité depuis le début des playoffs 2017. Les Cavaliers de Cleveland, qui mènent 2-1 face aux Celtics, auront la possibilité d'obtenir leur billet pour la finale dès mardi lors du 4e match qu'ils joueront dans leur salle.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À Boaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, les ex-combattants démobilisés sont encore descendus hier dans la rue pour réclamer des primes à l'État. Et ce, une semaine après les mutineries des ex-soldats rebelles intégrés dans l'armée ivoirienne. 18 millions de francs CFA, c'est le montant que réclament ces anciens soldats. Retrouvons notre correspondant à Boaké, Siriki Barou.
Cette énième descente des ex-combattants démobilisés résulte de la récente mutinerie qui a occasionné la disparition de l'un des leurs en la personne de Diawara Youssouf, abattu le 13 mai dernier par les soldats mutins. Venu apporter la compassion du gouvernement à l'occasion de la levée de corps de ce dernier, la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mariétou Koné, a laissé entendre que l'État propose aux ex-combattants démobilisés des projets pour leur intégration sociale. Cette déclaration de Madame la ministre a mis le feu aux poudres. Rapidement, le corridor sud est pris d'assaut, empêchant les entrées et sorties de la ville. Diomandé Megbe est le porte-parole des ex-combattants démobilisés.
Mais tel que le ministre de la Solidarité est venu nous dire que le gouvernement compte nous donner des projets, ah, franchement dit, ça a dégénéré. Les gars ont trouvé que c'est du foutaise. Comment les militaires peuvent avoir 17 millions et nous on va avoir des projets? On ne peut pas accepter les projets. Comment est-ce que la ministre est venue nous dire qu'il fallait des projets? Donc voilà où ça a dégénéré. Sinon, c'était pas prévu qu'on vienne au corridor.
Les démobilisés se disent être disposés à négocier avec les autorités compétentes, nous laisse entendre le porte-parole.
Nous souhaitons négocier avec qui des droits. Voilà. Nous attendons des coups de fil. Les ministres sont là, ils peuvent nous appeler, nous donner quelques assurances et on va quitter. Sur notre intention, ce n'était pas venir sur le corridor. Une fois qu'on appelle, on a parlé de 3 personnes. Il y a Sékou Touré, il y a le ministre de la Défense et il y a le président. C'est les 3, les coups de fil, on attend présentement.
Depuis le mois de janvier, la ville de Boaké est rythmée par les mouvements des mutins et des ex-combattants revendiquant des primes. Siriki Baro, Boaké pour VOA Afrique.
Selon notre correspondant, la situation s'est normalisée en début de soirée hier à Boaké avec la levée du blocus au corridor sud.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Au Mali, un forum culturel qui se veut un cadre d'échange vient de se tenir dans la cité des Askia les 19, 20 et 21 mai en présence de quelques 5000 personnes venues de toutes les régions du nord, du centre du pays et de la diaspora. C'est l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga qui a été investi président des communautés Songoï en mouvement Irganda. Nom que porte désormais ce mouvement Songoï de Gao. Boubacar Touré y revient plus en détail.
C'est nous qui recevons l'étranger, nous donnons à manger. Sans distinction de race, c'est ça le Songoï.
C'est une place de l'indépendance bondée de monde qui a abrité le tout premier forum Songoï. Les participants venus de toutes les régions du nord, du centre et de la diaspora ont planché durant 3 jours sur les thèmes relatifs à la sécurité, au développement et au vivre ensemble. Quels sont les objectifs visés par ce forum? Ousmane Issoufi Maïga, ancien premier ministre, président d'honneur de la commission d'organisation.
Défendre notre patrimoine historique. Nos intérêts moraux, socio-culturels et économiques. Jouer notre partition dans un Mali unique, laïque, républicain et démocratique.
Sur les lieux du forum, nous avons tendu notre micro à des participants. Voici leur réaction.
Je suis très heureuse vraiment de participer à cette forum qui est une première. Je pense que vraiment les choses désormais vont changer.
C'est un événement historique, une grande communauté qui a marqué l'histoire de ce continent africain pendant des siècles vient de se réveiller. Et ça, c'est important pour le reste du Mali.
Un sentiment de fierté. Chaque jour qui passe, c'est des braquages, c'est des tueries. On n'a pas la paix.
mais il faut qu'on se donne la main pour faire la paix. Le vivre ensemble, nous l'avons hérité.
À l'unanimité, l'ancien Premier ministre Ousmane Issifi Maïga a été investi président communauté Songoï en mouvement Irganda. Irganda qui signifie notre terroir. Le président investi dans son discours d'ouverture a tenu à apporter cette précision.
Il convient d'abord de préciser, j'affirme qu'il n'est ni un parti politique, ni un groupe armé, ni une association à vocation lucrative, ni une association confessionnelle. Le Songoï peut être considéré comme une culture multidimensionnelle, appartenant à plusieurs groupements humains, Touareg, Arabes, Arma, Keltamachek, Noir, Peul, Gourmantier, Sorko, etc., partageant un même terroir.
Voici quelques réactions par rapport au choix de l'homme.
Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on a des repères pour aller de l'avant. Qu'entre 5000 et 6000 personnes puissent se rencontrer, se parler et s'entendre sur un dirigeant, je pense que c'est exceptionnel et l'espoir est permis.
Il était temps quand même que les communautés songhaï puissent se retrouver et je crois que c'est ce qui a été fait ces deux jours. L'homme qui a été unanimement investi aujourd'hui, nous pensons véritablement que c'est l'homme qu'il faut. Ça n'a aucune connotation de pouvoir, n'est-ce pas, faire la guerre contre notre communauté.
Le forum Songoï tenu les 19, 20, 21 mai 2017 dans la cité des Askia a mobilisé quelques 5000 participants venus de partout selon les organisateurs. Kaou, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao au Mali sur 92.9 FM.
En République démocratique du Congo, nombre de jeunes n'ont connu que des périodes d'insécurité ou de violence armée. L'ancien leader étudiant Vianney Bissimwa, qui reconnaît avoir autrefois usé de la violence, s'est donné pour mission de réconcilier la jeunesse avec son entourage afin de consolider la paix dans le Nord Kivu, l'Ituri et les Haut-Eba-Uele. Aujourd'hui, en tant que responsable de recherche au bureau de Goma de Search for Common Ground, il forme des jeunes victimes de la violence sociale en vue de les transformer en pacificateurs et agents de changement. En visite à Washington, il était l'invité de Nathalie Barge dans Le Monde au féminin.
Vous savez, aujourd'hui, celui qui est né, je sais pas moi, il y a depuis 1994, il n'avait que la guerre. Celui qui est né très récemment et qui a 10 ans aujourd'hui ou 8 ans, que ce soit à Goma, à Rutshuru, à Kinshasa, au centre du pays et partout ailleurs, il n'a connu que ça. Que la guerre, que les pleurs, que les plaintes, que des informations qui parlent des destructions dans son pays, les viols et toutes ces questions. Oui, les enfants sont... Et moi, j'ai envie de dire les toutes premières victimes de cette violence, parce que non seulement qu'on détruit leur présent, mais on détruit aussi leur avenir. Vous savez, la chose la plus dure aussi, c'est de faire en sorte qu'un parent revienne chez lui à la maison dans nos sociétés et qu'il soit incapable de répondre aux besoins élémentaires de ses enfants.
C'est dur.
Pas parce qu'il est incapable, mais simplement parce qu'il y a la guerre et parce qu'il n'y a pas d'opportunité autour de lui. Et même lorsqu'il y en a, il y a de la tracasserie, il y a une forme de violence sociale, psychologique, structurelle qui va pousser finalement un tel parent à être si faible et parfois à laisser l'enfant développer ses propres mécanismes de solution face à ces genres de situations.
Comment vous faites pour les impliquer dans ces questions de réconciliation?
C'est parfois réconcilier des jeunes avec des adultes qui leur ont fait du mal, mais parfois aussi c'est entre eux parce que des divisions affectent aussi les jeunes qui arrêtent de se regarder simplement avec leur regard d'enfant.
Ces divisions se répercutent dans le milieu de la jeunesse.
Ils vont se regarder sur bas des stéréotypes et des préjugés. La première chose qu'il faut faire, c'est de créer des espaces. Et qu'on essaie de faire, c'est de créer des espaces où ces jeunes gens peuvent s'exprimer librement, sans être jugés, où ils peuvent parler et où ils peuvent être écoutés. On a besoin dans les familles, dans les communautés, on encourage beaucoup des parents, d'éducateurs et des responsables, de grands frères, grandes sœurs, à pouvoir créer un espace où les enfants vont parler et ils vont être écoutés sans être jugés. Ils peuvent exprimer leur opinion sans être jugés. Ça leur permet de créer leur propre estime de soi. Ouais. Et c'est la première chose qu'il faut faire. Et nous, on essaie d'utiliser les loisirs pour transmettre des messages de cohésion, pour amener les enfants qui sont des groupes différents à pouvoir se connaître. Des activités comme le football, des activités comme de chant, de danse, permettent à l'enfant de pouvoir transmettre des choses qui sont profondes, mais aussi de pouvoir découvrir l'autre qui les transmet et finalement de créer des liens avec l'autre que nous, les adultes, on a parfois du mal à pouvoir créer. Et les loisirs peuvent être utilisés et devraient être utilisés dans ce but-là, de permettre à l'enfant de découvrir ce qu'il est lui-même, ses talents, ses qualités, mais en même temps de découvrir l'autre. Parce que la plupart des loisirs ne se font pas seuls. On les fait en groupe, on le fait en plein air, on le fait à l'espace, donc on se découvre, on découvre la nature, on découvre l'autre et finalement, on bâtit au travers des enfants une autre société pour l'avenir.
C'était Vianney Bissimoy, responsable de recherche au bureau de Goma de Search for Common Ground, dans un extrait de l'émission « Le monde au féminin » diffusé le mardi et le samedi à 19h temps universel.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Des jeunes filles d'Afrique de l'Ouest viennent de démontrer à Dakar qu'elles pouvaient être à l'avant-garde de la technologie en participant le week-end dernier à un concours de robotique venu du Sénégal, de Gambie et du Mali et vêtues d'uniformes de leurs écoles. Elles ont crié leur soutien à leurs équipes dont les robots rivalisaient d'adresse dans le déplacement de cônes en plastique. Le point avec Michel Joseph.
Entre le show télé et la conférence technologique, la Pan-African Robotics Competition, ou PARC, a été initiée par Sidi Ndao, professeur de l'Université de Nebraska-Lincoln, qui a quitté le Sénégal pour les États-Unis alors qu'il était adolescent.
Nous avons remarqué que la plupart des pays qui sont développés comme les États-Unis ont fondé leur développement sur la manufacture et l'industrialisation. Les pays africains sont loin derrière dans cette course. Alors, nous avons pensé que ce serait une bonne idée d'inspirer les enfants et leur parler de l'importance de la manufacture, de l'industrie et de la création pour produire le développement.
Pour ce passionné de technologie, découvrir les sciences est une source d'inspiration, pouvant donner aux enfants une vocation d'ingénieur ou de scientifique. Désormais financée par la Banque mondiale, la PARC en est à sa deuxième édition. Elle a réuni 250 adolescents avec un accent particulier sur les filles. Ces jeunes ont été répartis en trois groupes. Le premier groupe a travaillé sur les robots, le second sur des machines et le troisième groupe devait développer un nouveau produit typiquement africain. La Sénégalaise Rokiaha Sissé, 17 ans, a aidé son équipe à fabriquer un robot détecteur de métaux qui envoie des signaux dans le sous-sol avant de commencer à creuser.
C'est vraiment très intéressant, on s'est beaucoup amusé parce qu'on apprend de nouvelles choses et on n'avait pas vraiment d'opportunité par le passé de pouvoir manier des robots.
Le jeune Aboubakar de la Gambie explique.
C'est un robot qui traduit en réalité tout ce que vous dessinez dans l'ordinateur. C'est un peu difficile. Il y a tellement de compétitions, mais nous essayons. J'ai appris comment assembler un robot et programmer un ordinateur.
L'école de filles Mariam Abba sur l'île de Gorée a remporté un prix pour une pompe made in Africa contre les inondations. Oumu Tarawali, une Gambienne de 14 ans qui veut devenir médecin, a de son côté expliqué comment l'arachide pouvait être transformé en carburant. Sidi Ndao, l'organisateur de l'événement, enseigne dans un département formant des ingénieurs à l'Université du Nebraska à Lincoln.
J'ai réalisé combien les enfants aiment la robotique et combien ils sont passionnés de science, au point même où, à l'heure du déjeuner, nous devons les convaincre d'aller manger. Et lorsqu'il est temps de rentrer, personne ne veut quitter le lieu.
Selon lui, les gouvernements et le secteur privé doivent beaucoup plus investir dans l'éducation dans ces domaines, plus particulièrement au niveau universitaire. Monsieur Ndao regrette le manque criant de professeurs et d'éducateurs qualifiés, sans parler des établissements scolaires qui manquent d'électricité, d'eau courante et d'infrastructures. Alors que l'accès à un ordinateur reste toujours un luxe pour la plupart des élèves, surtout en zone rurale. À peine plus de la moitié des enfants terminent leur cursus scolaire et la tradition considère toujours que les filles ont mieux à faire à la maison que sur les bancs de l'école. De l'avis des spécialistes, mettre l'accent sur l'accès aux sciences permettrait de briser le cycle des problèmes en Afrique.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons de l'épidémie d'Ebola en RDC.
Depuis le 22 avril, 20 cas suspects et 3 décès ont été signalés. C'est la 8e épidémie d'Ebola dans ce pays d'Afrique centrale.
Pour comprendre pourquoi le pays est autant exposé à la maladie, nous recevons comme invité le docteur Malonga Matudila. Il fait partie de l'équipe d'experts ayant découvert le virus en 1976.
Et puis pour savoir comment évolue la maladie et les mesures déployées pour combattre l'épidémie, Nous écouterons le docteur Dan Bouzoua Nafissa, responsable médical de l'ONG Alima, qui a déployé une équipe sur le terrain.
Votre santé, votre avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour la mise en onde et le suivi de l'actualité. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.